Et bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans notre émission de Première Vue, l'émission faite par les premières pour toutes les autres personnes, pour vous, des premières de la cité Paul Scarron. Aujourd'hui, nous avons comme sujet le Brexit, le virus H5N1, des tickets de caisse et un robot au Japon qui est géant. Et je suis autour de la table avec eux. Donc Clément,
Bonjour.
Emma,
Salut.
Liana,
Bonjour.
Talia,
Salut.
Marie.
Bonjour.
Et Justin
Coucou.
et Gabriel qui est la technique et Madame Martin qui nous regarde, qui va nous noter. Du coup, je vais essayer de faire une bonne émission. Et nous commençons du coup avec la revue de presse dès maintenant. Et nous commençons avec Liana qui a un sujet qui s'est passé donc pas très longtemps, durant ce week-end, sur le Brexit.
Oui, merci. Donc en effet, après 44 ans dans l'Union européenne et 3 ans de doutes et d'hésitations, le Royaume-Uni a enfin quitté l'Union européenne ce vendredi 31 janvier à 23h, heure locale. De Londres, bien sûr. Bien entendu, en Angleterre, tout le monde a célébré ce nouveau départ. Notamment à Londres où les habitants ont scandé le compte à rebours devant sous Big Ben et devant le palais du Parlement. Ils ont ensuite lancé des ballons en l'air en chantant l'hymne national God Save the Queen et ils ont tiré un feu d'artifice. Il y a bien entendu beaucoup d'interrogations qui subsistent, mais beaucoup d'Anglais sont satisfaits du changement car ils en avaient assez de ces 3 ans de doute. Mais d'autres sont plus sceptiques et se demandent comment vont se dérouler les événements maintenant qu'ils ne sont plus dans l'Union européenne. Ce Brexit va avoir bien entendu plusieurs impacts sur l'Union européenne. L'un d'entre eux est bien entendu la perte de 5,5% du territoire de l'Union européenne, ainsi que son passage à 440 millions d'habitants. Le Royaume-Uni est désormais divisé, bien entendu, avec l'Écosse qui a annoncé qu'elle hésitait à sortir du Royaume-Uni afin de revenir dans l'Union européenne. Les importations et exportations du Royaume-Uni constituent plus de la moitié se font vers l'Union européenne. Donc Londres et Bruxelles doivent bientôt se réunir pour négocier un nouvel accord, notamment commercial, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il va y avoir une période d'adaptation pour le Royaume-Uni ainsi que pour l'Union européenne. Donc pour l'instant, rien ne change pour les citoyens et les entreprises.
Merci Liana. C'est maintenant au tour de Marie qui va nous parler d'un virus, le virus H5N1, qui n'est pas le coronavirus.
Oui, la Chine est à nouveau confrontée ce week-end à une épidémie du virus donc H5N1 de grippe aviaire dans la province d'Hunan. Des milliers de poulets ont déjà été abattus. Donc c'est un événement qui vient aggraver une situation déjà critique en Chine. Samedi 1er février, plusieurs médias locaux ont en effet rapporté qu'en plus du coronavirus 2019, NCOV, qui a fait 305 morts et qui touche désormais 14 628 personnes dans le monde, une nouvelle épidémie était présente dans le pays. L'épidémie a débuté dans une ferme du district de la ville de Shaoyang. L'exploitation compte 7 850 poulets, dont 4 500 sont morts par contagion, a fait savoir le ministère de l'Agriculture chinois samedi, cité par The South China Morning Post. Les autorités locales ont abattu 17 828 poulets après que l'épidémie s'est déclarée, indique le ministère. Aucun cas humain de contagion par le virus d'influenza aviaire H5N1 n'a été rapporté aux autorités pour le moment. La grippe aviaire H5N1 avait tué pour la première fois à Hong Kong en 1997, causant la mort de 6 personnes avant de réapparaître en 2003 en Asie du Sud-Est, faisant un total de 282 décès pour 468 cas dans 15 pays. Mais ce virus sévit essentiellement chez les oiseaux, surtout les volailles d'élevage, et les infections chez les hommes sont dues à des contacts directs avec ces animaux. On ne peut donc pas parler d'épidémie humaine de grippe aviaire, la transmission interhumaine étant inefficace ou minime. La crainte est une évolution du virus vers une forme facilement transmissible d'homme à homme. Pourtant, mi-janvier 2020, la coordination rurale avait mis en alerte sur un autre virus, le H5N8, de la grippe aviaire, qui sévit dans plusieurs pays d'Europe. Selon le syndicat agricole, ce dernier risquait de faire son retour sur le territoire français et de mettre à nouveau en danger les élevages de volailles et les producteurs de foie gras. Depuis plusieurs semaines, des foyers de grippe aviaire H5N8 ont été détectés dans des élevages de Pologne, Slovaquie, Hongrie et Roumanie, mais aussi dans la faune sauvage en Pologne, soulignait ainsi la coordination rurale. Dans un communiqué, le syndicat demandait aux autorités d'interdire rapidement les importations de volailles en provenance des pays infectés et d'attirer la vigilance des douanes sur ce risque. Après le virus H5N1, durant l'hiver 2015-2016, le virus H5N8 avait décimé les élevages français durant l'hiver 2016-2017 et porté un coup terrible à la filière du foie gras.
Merci Marie. Et tu vas nous continuer en nous parlant des tickets de caisse.
Oui, donc les tickets de caisse, ils font partie de notre quotidien et pourtant, ils sont probablement amenés à disparaître. Donc Patricia Mirales, la députée de La République En Marche de l'Hérault, a proposé d'interdire l'impression systématique des tickets de caisse à partir de 2023. Elle a fait adopter un amendement au projet de loi visant à lutter contre le gaspillage. L'impression systématique de tickets de caisse sera interdite à partir de 2023, sauf si le client le demande. L'interdiction concerne également les tickets de carte bancaire et l'impression des bons de réduction. Les causes de cette interdiction, Madame Mirelles met en avant des questions de santé. Donc en effet, il y a une présence de biphénol F ou S dans les tickets de caisse, donc qui sont dangereux pour la santé, et ainsi que pour la défense du climat, donc en évitant un gaspillage de papier. Un hypermarché a recours annuellement à 10 millions 6 000 rouleaux de papier thermique, donc qui est l'équivalent en distance d'un Paris-Montpellier, a expliqué Patricia Mirales. Donc comment remplacer les tickets de caisse? Ce changement évoque des solutions alternatives. Patricia Mirales dévoile plusieurs pistes, donc un paiement par carte bancaire facilité, le recours à de nouvelles plateformes de paiement ou l'envoi d'email. 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent du numérique. Donc cette dernière option a déjà été proposée par plusieurs enseignes, mais la dématérialisation est-elle vraiment préférable à l'émission d'un ticket de caisse pour la sauvegarde du climat? Parce que l'empreinte carbone des tickets de caisse n'a pas fait l'objet de travaux à notre connaissance, alors que l'envoi de réception d'un email ont eux aussi un impact sur l'environnement. L'ADEME, donc Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie, a calculé en 2011 que l'envoi d'un email de 1 mégaoctet, lu pendant 5 minutes et stocké pendant 1 an, équivaut à 19 grammes de dioxyde de carbone. Et en 2011, l'ADEME, toujours, rappelait que le numérique représente 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce chiffre pourrait doubler d'ici 2025, selon l'agence, en raison de la multiplication des usages, donc envoi courriel, lecture de vidéos, etc. Le remplacement des tickets par email se heurte à d'autres obstacles, donc comme la protection et la gestion des données personnelles des clients, le coût pour les enseignes qui doivent remettre à jour du coup toutes leurs caisses. Le basculement vers la dématérialisation nécessite également d'accompagner les consommateurs aux pratiques numériques, envoi et réception d'un email, connexion à un espace personnel pour retrouver les factures. Or, une personne sur 5 est incapable de communiquer via Internet, d'après l'INSEE.
Merci Marie. Nous allons reprendre avec Liana qui va nous parler d'un robot géant au Japon.
En effet, un robot géant, un Gundam plus précisément, va être construit au Japon. Donc les Gundams, ce sont des robots humanoïdes géants équipés d'armes incroyables et inspirés des samouraïs dans leur manière de se battre. Ils ont une place très importante dans la pop culture nippone depuis 1979, à savoir le début de la série d'animation éponyme. Les Gundam ont influencé beaucoup de films très connus comme Transformers ou encore Pacific Rim. Alors qu'en 2017, un premier Gundam de 19 mètres avait été construit dans le quartier Odaiba à Tokyo pour célébrer les 30 ans de la franchise, un nouveau robot a été annoncé pour cette année afin de célébrer les 40 ans des Gundam. Le robot mesurera cette fois-ci 18 mètres, mais il pourra marcher, ce que l'ancien de Tokyo ne pouvait pas faire. Il s'agit de plus du plus grand robot humanoïde jamais construit par l'homme. Le nouveau Gundam sera une reproduction du modèle Gundam RX-78-2 et pèsera plus de 24 tonnes. Plusieurs systèmes hydrauliques et électroniques ont été mis au point pour permettre à ce robot de se déplacer et il sera bien entendu contrôlé à distance. Il ne pourra pas non plus marcher trop loin. Les Gundams Le Gundam aura aussi 24 articulations fonctionnelles qui lui permettront notamment de bouger ses bras et ses mains. Ces dernières qui devraient d'ailleurs peser jusqu'à 200 kg chacune. Le maître en œuvre du projet est le japonais Masaki Kawahara, aidé bien entendu par des experts en robotique. Pour finir, les avis sur la toile font rage. Beaucoup s'interrogent sur l'intérêt du projet, tandis que les fans sont tout simplement heureux de pouvoir assister à cet événement. J'ai utilisé les sites Clobic et Journal du Geek pour mes sources.
Merci Liana. C'est la fin de notre revue de presse. Et désormais, maintenant, nous allons passer à notre partie débat, qui est la partie point par point. Et nous revoilà, et nous allons commencer notre débat avec la question que je vais vous poser. Pensez-vous que les pays font suffisamment pour gérer les maladies comme le coronavirus ou, par exemple, la nouvelle maladie que je viens d'apprendre l'existence, le H5N1, pensez-vous que tous les pays du monde entier, et d'ailleurs le monde entier, fait suffisamment pour gérer ces genres de crises?
Bah, moi je pense que oui, parce que déjà du coup quand je me suis renseignée sur la nouvelle épidémie en Chine, là il y a déjà deux hôpitaux qui sont en train de se faire construire, enfin il y a des ouvriers qui travaillent nuit et jour pour accueillir les victimes de ce virus là, et les pays sont pas prévenus, enfin je veux dire c'est quelque chose... Trois hôpitaux. Du coup, donc trois hôpitaux, donc c'est quand même énorme, mais je pense que oui, ils font assez attention à ça et ils font ce qu'ils peuvent.
Pour revenir sur ce que tu as dit, c'est la Chine qui construit trois hôpitaux. En France, je vois difficilement comment on peut faire travailler des ouvriers 12 heures par jour pendant 10 jours pour construire des hôpitaux en préfabriqué. Je veux dire, la Chine, c'est un régime assez autoritaire, donc je pense que ça n'a pas été très difficile de convaincre les ouvriers d'aller au travail. Dans des pays occidentaux, je pense que ça serait quand même beaucoup plus compliqué, parce que c'est quand même un gros exploit qu'ils nous ont fait là. Le premier hôpital, il ouvre aujourd'hui. Ils ont commencé la construction il y a entre 10 et 15 jours, je ne sais plus exactement. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à raccorder un bâtiment entier en eau, en électricité, avec une route, en construisant un hôpital de 1000 lits, ce qui, je crois, est à peu près la taille des hôpitaux qu'on a, nous, par exemple, au Mans. Donc, à ce point, la Chine, je pense qu'elle a fait, elle a fait suffisamment, dans le sens où elle a beaucoup moins de limites que nous. Parce que, je veux dire, la loi, là-bas, ce n'est pas un problème si le régime l'enfreint, puisque c'est lui qui l'a fait. Alors qu'en France, je pense que prendre les mesures qu'ils ont prises serait quand même beaucoup plus compliqué.
Moi, je pense qu'après... Bah là, par contre, j'ai parlé pour la France, mais si en soi, par exemple, il y avait un virus qui venait jusqu'en France, on aurait difficilement des... Enfin, ce serait plutôt difficile de construire des hôpitaux, comme tu as dit Clément, sachant qu'en plus... Bon, là, par contre, j'ai plutôt me confier sur vos avis, parce que je vais pas être sûre de ce que je dis, mais il n'y avait pas eu un truc avec les médecins qui ne voulaient plus travailler, ou alors avaient des conditions d'horaire et de vie, oui, entre guillemets, un peu difficiles. Donc, je vois mal la France faire un hôpital, soit pour un virus qui peut être mortel, comme le coronavirus, mais je sais pas franchement si on serait prêt à faire travailler des médecins pour un virus comme ça, sachant qu'ils avaient déjà des conditions de travail assez difficiles, rien que pour des patients qui avaient des maladies non mortelles.
Après, je reviens sur ce que tu as dit, Clément. Ils ont fait construire trois hôpitaux, mais après, la Chine, c'est, on va dire, l'endroit déclencheur en fait du coronavirus, pardon. Donc après, en France, pour l'instant, il y a quelques personnes qui ont les symptômes, mais il y a encore de la place dans certains hôpitaux. Là-bas, ils sont vraiment saturés et du coup, ils étaient obligés en fait de faire des préfabriqués. Après, c'est vraiment ce que tu as dit. Ils ont fait un truc assez impressionnant en 10 ou 15 jours, je sais plus ce que tu as dit, mais
à peu près 10 jours, ouais.
Ouais, c'est ça. Mais après, on va dire qu'ils étaient un petit peu obligés, les hôpitaux étaient pleins, là, il y a tout le monde qui s'inquiète, en mode j'ai peut-être les virus et tout, donc le virus, donc je vais aller voir les médecins et tout, ils sont débordés, en fait, ils sont obligés, en fait, de faire en sorte qu'il y ait plus de place.
C'est ce que j'ai dit, ouais, ils n'ont pas le choix.
Oui, mais en France, ils ne feraient pas ça.
En France, si on était dans la même situation, il est peu probable, oui. Mais là, ça sert à rien de le faire, construire trois hôpitaux alors qu'on n'a pas assez de médecins.
Ça servira à rien.
Mais surtout, ça c'est le cas de la Chine. Après, le reste du monde, est-ce que, enfin, à moins que je me plante, il ne me semble pas que les autres pays fassent grand-chose pour aider la Chine ou pour le coronavirus. Après, je me plante peut-être, mais moi, pour moi, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'implication. Je vois en France, on a déjà plusieurs personnes qui ont les symptômes. Je crois pas, enfin, je sais pas s'ils ont été mis en quarantaine ou quoi.
Si, si, tous.
Si, on est en quarantaine. Mais enfin, voilà, faudrait faire quelque chose. Soit, je sais pas si les envoyer en Chine pour les faire soigner avec les autres médecins, ce serait une bonne idée ou pas, je pense pas. Mais il faudrait trouver une solution pour les aider, parce que bah, y a déjà eu des morts, donc ce serait bête que d'autres personnes meurent.
Bah, en ce qui concerne les patients français, je pense qu'ils ont plus de chances d'être pris en charge ici qu'en Chine, dans le sens où
ah oui, ça c'est sûr.
Nos hôpitaux, ils sont pas aussi pleins que là-bas. On a des médecins entre guillemets qui sont attitrés pour eux, enfin entre guillemets, dans le sens où on prend particulièrement attention à eux.
C'est un traitant.
Voilà, je veux dire, en Chine, quand les hôpitaux là, avant qu'il y ait les trois nouveaux, ils étaient tellement engorgés qu'on se retrouvait avec des patients qui ont un virus très contagieux à traîner dans les couloirs, alors qu'en France, ils sont dans des chambres avec pression négative et tout ça, des sas d'entrée, donc en fait, le virus peut juste pas sortir. Donc en France, on en prend particulièrement soin en fait des malades pour pas que le virus se répande chez nous.
Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, Eliana, donc si je ne me trompe pas, tu disais que la Chine ne reçoit pas trop d'aide, c'est ça ? Genre, elle n'est pas très aidée au niveau de ce virus ?
À moins que je me plante, il ne me semble pas.
Bah, c'est un peu le cas de tous les pays, parce qu'au final, les pays restent assez égoïstes, entre guillemets. Si je prends l'exemple du virus Ebola qui a eu en Afrique il y a quelques années déjà, où on les a aidés, certes, mais quand on voit que plusieurs années plus tard, les gens préfèrent sauver une cathédrale que des vies humaines, c'est qu'au bout d'un moment, les pays sont assez égoïstes.
Ça, je suis tout à fait d'accord.
Alors, je suis d'accord aussi.
Pour rebondir, je ne suis pas sûr que la Chine veuille de l'aide. Là, c'est purement politique, hein, mais voir la Chine, qui a quand même c'est un régime avec un dictateur, son petit ego, demander de l'aide à d'autres pays pour ses problèmes internes, je suis pas sûr qu'ils acceptent. Et après, bon, je sais pas si on peut appeler ça de l'aide d'autres pays, mais par exemple, il y a l'Institut Pasteur qui a déjà réussi à mettre le virus en souche.
Ouais, grâce aux events.
Voilà. Peut-être pas totalement. Mais en gros, on a d'autres pays qui travaillent, mais là, c'est plus pharmaceutique et économique, dans le sens où s'ils travaillent là-dessus, c'est pas pour aider les Chinois, c'est pour se faire de l'argent en vendant un vaccin.
Bah, et puis aussi, peut-être pour éviter que le virus se propage au niveau... Pour éviter que le virus se propage au niveau international aussi, on a déjà en France par exemple, on a déjà des personnes qui sont touchées, donc voilà, faut faire attention aussi à ça.
Nous allons faire une petite pause musicale avec les chœurs de l'Armée Rouge qui vont nous chanter Katyusha.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила, степного сизого горла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
Услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Thank you.
C'était Katyusha des Cœurs de l'Armée Rouge et nous reprenons donc notre débat sur la santé avec une question de
moi,
de Emma.
C'était juste par rapport à Justin. Tout à l'heure, tu as dit un truc du genre je ne sais plus quoi et tu as parlé des The Event, mais c'est quoi?
Le The Event, c'est un événement qui a lieu chaque année depuis 2-3 ans maintenant. C'est un événement caritatif créé par Zerator, qui est un streamer donc, et qui réunit une cinquantaine de streamers, qui a pour but de collecter de l'argent afin de donner une association. Donc cette année, c'était l'Institut Pasteur, et cet événement a rapporté plus de 3,5 millions d'euros à l'Institut Pasteur. Donc ça a pu donc aider, je pense, pour le coronavirus.
Merci.
Les streamers sont des vidéastes en direct. C'est comme la télé, sauf que c'est sur Internet.
Voilà.
Merci.
Et donc, nous reprenons le débat. Une question a été posée sur, notamment sur les médecins chinois et les médecins français.
Oui. Donc, on en parlait, mais c'était hors antenne. Pour resituer tout ça, on s'était dit que les médecins n'ont pas la même situation en France qu'en Chine. Parce que, par exemple, en Chine, bon, il n'y a pas tellement le droit de grève. Ils sont un petit peu obligés de travailler. Et il y a aussi un ratio médecin par habitant qui diffère dans le sens où en Chine ils sont à peu près 1 milliard, bon, on n'est plus à 1 million près, et pour autant il n'y a pas énormément de médecins comparé en France où on a un ratio de médecins qui est beaucoup plus élevé en fait. Donc il y a aussi cette parenthèse, cette question là qui est est-ce que les pays ils ont assez de médecins pour faire face à une épidémie finalement?
Après je pense pas que les médecins dans la néonatale par exemple au Mans, on voit qu'il en manque beaucoup, vu qu'il y a un secteur, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, où tout est prêt, les chambres sont prêtes, ils sont prêts à accueillir les mamans et leurs bébés prématurés, mais il n'y a aucun médecin, il manque des soignants, d'infirmiers et tout. Et donc après, est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de médecins pour un ratio d'habitants en
gros,
Chine, ou je sais plus ce que tu as dit.
Le ratio, c'est pour 100 habitants en France, combien il y a de médecins, et pour 100 habitants en Chine, combien il y a de médecins.
Après, est-ce que toi, tu penses qu'il y en a plus en Chine ou en France?
Je pense
c'est
que
la question.
Pour 100 habitants, il y a plus de médecins en France qu'en Chine, je pense.
Ah ouais?
Bah déjà, en fait, la Chine, elle n'est pas développée pareil sur tout le territoire. En fait, toute la côte, c'est un pays plutôt développé sur la côte, avec des usines, du travail et tout ça. Vous rentrez dans les terres, ça devient la France des années 50, quoi. Enfin, c'est encore très peu développé, c'est principalement des agriculteurs.
C'est en cours de développement, en
fait. Voilà, il n'y a pas encore trop d'industrie, c'est très pauvre. Et donc, je pense pas qu'il y ait énormément de médecins dans ces coins-là.
Après, dans certains coins de la France, il en manque aussi.
Ah oui, bah, chez nous,
pas. Surtout dans les campagnes, où il manque beaucoup de médecins traitants pour les personnes âgées, ou même, par exemple, nous, on habite en campagne, et c'est vrai que maintenant, pour trouver un médecin traitant, ou même les ophtalmos, par exemple, c'est super compliqué.
Donc, est-ce que je pense qu'on peut parler, du coup, de déserts médicaux en Chine, pour éloigner des côtes?
Oui, c'est très probable.
Après, pardon.
Vas-y.
Même en France, sans parler des médecins, je sais qu'au niveau des infirmières et infirmiers d'ailleurs et aides-soignants, c'est catastrophique. Le corps médical, il travaille beaucoup trop. Enfin, là, dernièrement, il y avait plus le droit de faire de travailler le soir puis reprendre sur un matin le lendemain. Mais c'est dernièrement, jusqu'à maintenant, je sais que ma maman qui est aide-soignante, des fois, elle rentrait à 21h30 et elle repartait le lendemain matin à 6h. Ouais. Donc c'est invivable.
C'est très éprouvant,
et
en fait.
C'est ça, et c'est parce que justement il manque du personnel. Et plutôt que de revaloriser le diplôme, on accepte plus de gens, mais du coup on descend le niveau est descendu, et du coup il y a des gens assez incompétents.
Après, ça touche à la santé quand même. Donc
voilà,
faut
c'est
faire
ça.
Attention.
Mais du coup, quand tu parles des diplômes, ça, on n'a vraiment pas le choix, parce que en France, si on prenait pas des gens qui sont en dessous du diplôme recommandé, on serait non.
Non, pas forcément. On pourrait plutôt que de dire on a besoin d'un niveau moins élevé, dire le salaire il est plus élevé. Du coup, ça motiverait plus de personnes à faire ce métier. Parce que forcément, une personne, tu lui proposes d'être payée comme une aide-soignante ou comme une infirmière, elle va préférer être infirmière. Alors qu'on revaloriserait le diplôme d'aide-soignante, il y aurait plus de personnes motivées à être aide-soignante.
Après, c'est quoi la vraie différence entre infirmier et aide-soignant?
Le salaire.
C'est juste le salaire?
Non, il y a quelques trucs,
les
par exemple,
aussi, hein.
Les
infirmières plus
voilà.
D'études.
Et ouais. Les infirmières peuvent faire des soins, peuvent donner des ordonnances et tout, alors que les aides-soignantes ne peuvent pas.
Mais le truc, c'est que là, tu viens de parler de salaire. Mais le truc, c'est que nous, on a besoin de personnes qualifiées. Enfin, si les personnes, elles font que ça pour la thune,
ça
la thune, c'est pas ce qui manque en France. Hein.
Ouais.
Mais, en fait, ce qu'il nous faut vraiment en France, tout comme dans les autres pays, c'est des personnes qualifiées qui font ça parce qu'elles aiment, pas parce qu'ils font ça parce qu'ils ont plus d'argent à la fin du mois et qu'ils voient beaucoup plus de chiffres sur leur bulletin de paye. Ça, j'ai envie de te dire, c'est qu'une exception. Après, nous, ce qu'on voit, c'est l'évolution des personnes par rapport à leur santé. Si on prend un médecin qui se fait, je vais dire des bêtises, mais 2500 à la fin du mois, mais qu'il a vu, je sais pas, 50 personnes et que sur ces 50 personnes, il n'y a que 10 personnes qui sont vraiment bien soignées, il va y avoir des petits soucis.
Après,
enfin, après c'est mon avis personnel.
Hein. Mais après, est-ce qu'en Chine, il y a une aussi grande différence de salaire que en France?
Je pense que oui, un petit peu. Hein.
Je pense aussi.
Oui, oui, en Chine, ils gagnent un petit peu moins bien leur vie.
Un petit peu, un petit peu, t'es sûr?
C'était pas.
C'était un euphémisme.
C'était pas un ou deux euros.
Non, ça c'est dans les usines, c'est autre chose.
D'accord, pardon. Ouais, autant pour moi, j'ai tout peur.
Non, mais en Chine, vu que c'est un pays communiste entre guillemets, en soi, tout le monde a à peu près le même salaire. C'est l'idée du salaire commun universel, je sais plus comment ça s'appelle.
Oui, donc il y a
bon,
pas vraiment de raison
pour les dirigeants qui touchent
beaucoup plus.
plus.
Donc il y a pas de raison en fait qu'il y en a, il y a des étudiants par exemple qui soient plus attirés vers les aides-soignants que les infirmiers. Donc ils ont un manque. Après, il y a eu le système de l'enfant unique aussi qui fait qu'il y aura peut-être au moins d'étudiants. Je sais pas si ça peut.
Ils sont toujours beaucoup. Ça
oui, oui, c'est sûr que là, ils ont une population très très élevée, mais. Après, peut-être que là-bas, ils sont plus, on va dire, entre guillemets, spécialisés dans des, des métiers,
non, des métiers
j'ai perdu mon mot, des métiers que d'autres, par exemple la médecine.
D'accord.
Et voilà, ça va être la fin de notre émission, donc première vue et la fin de notre partie débat, point par point. Je vous rappelle qu'on est tous les lundis de 12h30 à 13h, et nous remercions Gabriel à la technique et bien sûr tous les intervenants et participants à cette émission.
À tout à l'heure. Et on se revoit tout à l'heure entre 15h et 16h pour une émission spéciale.
À tout à l'heure.
Bah,
à tout à l'heure.
Encore une
à
fois.
Toutes.